Pour passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Suno Assurance et suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a 50 ans, les premiers pas d'un être humain sur le sol d'une autre planète que la Terre. Événement historique que l'on évoque depuis ce matin sur l'antenne au travers de ses implications technologiques et politiques, éthiques et culturelles. Mais derrière cette aventure scientifique, il y a aussi une épreuve physique. Défi pour le corps, défi pour le mental, examiné de très près par les scientifiques et les spécialistes d'une discipline singulière, la médecine spatiale. Alors quels sont les effets des vols spatiaux sur le corps humain? Comment les astronautes s'adaptent-ils? Nous aborderons les conséquences concrètes en termes de bouleversements et de risques potentiels pour la santé, en termes de pertes osseuses et musculaires, d'altérations cardiovasculaires, d'exposition aux radiations, de perte d'immunité ou encore d'adaptation psychologique. Car nous allons le voir, au-delà de l'exaltation de participer à une aventure hors du commun, voyager dans l'espace, ce n'est pas vraiment une promenade de santé. La santé spatiale, l'incidence de ces vols et séjours dans l'espace sur le corps, les recherches, expériences et innovations médicales et technologiques associées. Avec nous en studio pour en parler, Claudie Aigneret. Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes astronaute, conseillère auprès du directeur général de l'Agence spatiale européenne, médecin rhumatologue de formation et spécialiste en médecine aéronautique. On va donner tout à l'heure aussi la parole au docteur Rafi Kouyoumdjian, médecin à l'Agence spatiale canadienne. Il suit l'astronaute David Saint-Jacques de retour sur Terre le 25 juin dernier, il n'y a pas très longtemps, après une mission de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Un entretien que nous avons enregistré.
Priorité santé sur RFI.
Alors Claudie Aigneret, on va bien sûr revenir longuement sur votre propre expérience au cours de cette émission. Deux voyages dans l'espace, la mission Cassiopée 1996, à bord de Soyouz et de la station Mir. Bien sûr, si je dérape un petit peu, vous me reprenez, vous n'hésitez pas. 5 ans plus tard, là c'est la Station spatiale internationale, mission Andromède. Astronaute, médecin, je l'ai dit, double expérience. Alors forcément, ça nous intéresse dans Priorité Santé, même si vous avez pas mal d'autres cordes à votre arc, puisqu'on va revenir sur cette façon, comment l'expérience spatiale agit sur l'organisme, comment les séjours spatiaux contribuent à défricher aussi de nouveaux territoires en matière de connaissances, en matière de santé humaine. 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, un demi-siècle après Apollo 11, on travaille toujours sur la Lune, précisément vous, sur un programme de village lunaire. De quoi s'agit-il?
Alors effectivement, ces missions Apollo qu'on a tous en tête, on en célèbre le 50e anniversaire, c'était des missions très courtes. Des missions où on a mis tout avec soi pour rester quelques heures sur la surface de la Lune. Et aujourd'hui, on pense installer des infrastructures plus permanentes, apprendre à vivre. Apprendre à travailler, à se déplacer sur la surface de la Lune pour bien sûr ensuite partir sur des destinations plus lointaines. Et là, il faut maîtriser effectivement beaucoup de sujets technologiques, mais aussi maîtriser les problèmes de santé et de sécurité de l'équipage. Donc on a beaucoup appris dans les stations spatiales, et on y reviendra sur l'influence de la gravité, l'adaptation du corps à ces conditions. Et il faut maintenant qu'on complète en apprenant aussi à vivre en gravité réduite. La Lune, ça n'est plus de la microgravité, c'est du 1/6 de la force de gravité. Ce qui veut dire qu'on marche, ce qui veut dire que peut-être les stimuli qui vont s'exercer sur notre corps seront suffisants pour éviter une adaptation. Donc une problématique médicale qui est là aussi très intéressante.
On est dans une expérimentation puisque justement comme les astronautes sont restés uniquement un délai très court, on n'a pas pu voir tout ce que cela pouvait donner sur l'organisme. C'est bien ça. Cette notion de temps, elle est essentielle.
La notion de temps est bien sûr essentielle. Il y a des effets qui se ressentent très rapidement dès l'arrivée en microgravité, et puis des effets qui vont s'installer sur la longue durée. Et pour revenir à la question précédente, l'idée de s'installer durablement sur la surface, avec un esprit de coopération, c'est un peu ça l'esprit du village lunaire, se dire que des gens seront là pour faire de la science, des gens seront des professionnels d'autres secteurs, ça sera à la fois des entités publiques, ce seront des acteurs privés.
On va socialiser.
Avec, pourquoi pas du tourisme à imaginer ou des formes de travail habituelles sur la surface de la Lune. Donc c'est un peu ça, c'est des privilèges, se dire pensons-y ensemble, on est vraiment dans une prochaine étape de notre humanité, une expansion, pas du tout pour quitter la Terre d'ailleurs, où il faut vraiment se préoccuper, mais bien évidemment essayer de repousser les limites, toujours aller plus loin dans la connaissance et dans le savoir-faire.
Il y a l'imagination, il y a la curiosité, et il y a ce que l'on sait déjà et ce que l'on a déjà ressenti, ce que vous avez déjà ressenti, Claudie Aigneret. Alors, moi, je ne suis jamais volée dans l'espace. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on sent dans son organisme?
Effectivement, sur Terre, la gravité a un effet structurant. Ne serait-ce, par exemple, que les références avec lesquelles vous fonctionnez. La verticale, l'horizontale, sur le plan cognitif, vous êtes bien câblé avec cette structure de la gravité. Votre appareil vestibulaire, votre oreille interne, c'est pareil, elle sait capter des signaux dont elle a l'habitude dans le champ de gravité. Les liquides de votre organisme s'organisent avec ce qu'on appelle un gradient de pression hydrostatique, c'est-à-dire que ça part du haut et ça descend vers le bas, force de gravité oblige. Alors évidemment, quand vous arrivez en microgravité, où on ne ressent plus les effets de la gravité, ces deux éléments, le neurosensoriel et le cardiovasculaire, sont immédiatement perturbés avec, je dirais, les premières 24 heures, sensation un peu d'inconfort, parce qu'il faut s'adapter à cet environnement.
Des vertiges, un déséquilibre, c'est pas systématique?
Alors c'est plutôt, je dirais, pour moi je l'ai décrit comme un problème d'orientation. Voilà, retrouver ses références, parce que on est habitué à vivre en deux dimensions au sol. Là on arrive en trois dimensions, on parle plus en mètres carrés, on parle en volume. Donc il faut retrouver le haut, le bas, la droite, la gauche, derrière et devant. Regarder par le hublot, eh bien, potentiellement, l'Afrique est au-dessus de l'Espagne. Cognitivement, ça pose problème. Il faut faire une espèce de rotation physique au départ, puis mentale, quand vous êtes un petit peu plus habitué. La tête gonflée d'un liquide qui va monter plutôt dans la partie supérieure du corps. Donc, c'est, je dirais, de l'inconfort et de la désorientation pour certains. Ça peut aller jusqu'à des vertiges et ça pourrait aller jusqu'à un mal de l'espace, comme on le connaît sur Terre avec le mal des transports.
Alors, vous y êtes longuement préparé, hein, vous, les astronautes, cette communauté. On peut le dire, ça fait 50 ans, mais seul 500 personnes se sont élevées justement dans ces vaisseaux. 500, ça fait quand même une petite communauté assez restreinte.
C'est un petit peu plus, c'est 575, je crois.
Voilà, mais en tout cas, on peut dire que c'est un petit village. Mm-hmm. Un petit village d'astronautes. Comment on se prépare déjà? C'est une préparation qui est longue.
Il y a déjà une première phase qui est la phase de sélection. Parce que, bien évidemment, nous sommes nombreux à postuler pour devenir un astronaute, et puis très peu ayant la chance d'être sélectionné. Et la sélection, elle a des critères médicaux très, très importants. On vérifie que vous êtes en capacité de supporter effectivement des contraintes physiologiques un petit peu différentes. Comment vous vous comportez dans une centrifugeuse, donc en hypergravité, et pas simplement 2G, jusqu'à 4G, voire 8G, donc processus de sélection. Comment vous allez vous comporter dans un caisson à dépression, par exemple? Comment vous allez vous comporter sur une table basculante, sur un tabouret tournant, pour ces aspects vestibulaires? Donc déjà une phase de sélection, puis une très bonne condition physique. On vous sélectionne à un moment donné, vous savez que vous avez 20 ans de carrière devant vous, et donc le risque zéro médical, on va essayer de le garder le plus longtemps possible, donc la sélection médicale est drastique.
C'est un véritable investissement humain.
C'est un investissement humain, et j'ajouterais à la sélection médicale physiologique classique, la sélection psychologique aussi, parce qu'on va en parler, on arrive dans un environnement différent, hostile, confiné, avec des grandes périodes d'expatriation dans des milieux différents, capacité à apprendre des choses nouvelles, donc sur le plan psychologique, individuellement et collectivement. Ce sont quand même des éléments importants dans la détermination de départ de qui peut être un bon astronaute.
Alors j'ai appris en préparant l'émission, il y a aussi de l'anecdote hein, dans cette conquête spatiale, même si le mot conquête ne me plaît pas forcément, on a dans cette aventure spatiale des astronautes qui grandissent pendant le séjour spatial. Alors peut-être que certains des auditeurs vont dire, ce serait pas mal, sur la Lune on peut prendre une dizaine de centimètres. Comment ça marche et hélas, pourquoi ça s'arrête quand on rentre sur Terre?
Alors ça, ce sont les effets, effectivement, à un petit peu plus long terme. Vous imaginez, vous êtes en microgravité. Vous avez les muscles complètement relaxés. Plus besoin de faire travailler ses muscles cervicaux ou ses muscles des jambes. Et donc, votre colonne vertébrale va prendre une position là aussi complètement de relaxation. Et on peut même dire que les espaces entre les disques, entre les vertèbres au niveau des disques, voilà, vont prendre le reste. Donc les courbures habituelles de notre colonne vertébrale se détendent. Et en microgravité, on est effectivement un petit peu plus grand. Mais dès que la gravité revient, eh bien, cette gravité restructure de nouveau vos courbures et si vos îles lordoses sont là de nouveau, ça dure très très peu de temps.
On parle des changements physiques, Claudie Aigneret. Est-ce que ces changements physiques, quand on est dans l'espace, on les ressent? Est-ce qu'on sent qu'il y a des choses qui sont en train de changer? Une sorte de mal-être ou de malaise ou simplement peut-être une gêne? Ça se ressent ou c'est a posteriori qu'on s'en rend compte?
Dans l'immédiat, quand on arrive en microgravité, on va avoir cette sensation de désorientation et puis effectivement au niveau de l'afflux de liquide vers la tête, c'est un petit peu dérangeant. Donc ça, on le ressent. Ensuite, on sait, parce que beaucoup d'astronautes ont volé, on a des heures de suivi médical sur des longues durées, on sait le problème musculaire et on sait le problème de la fragilisation de l'os, puisque bien évidemment, on n'a pas le même type de mouvement. On sait qu'il y a des problèmes de radiation, on sait qu'il y a des problèmes immédiats. C'est intellectuel, on ne le ressent pas, mais par contre, pour le muscle et l'os, on s'astreint 2 heures par jour à faire de l'exercice physique pour éviter que ces problèmes ne prennent des proportions trop importantes. Et donc effectivement, on est très bien suivi sur le plan médical, avant, pendant, après. On est aussi un petit peu des cobayes, bien évidemment, de cette recherche médicale à bord. Et on suit les conseils et on essaie de sentir son corps, effectivement. Si quelque chose n'est pas comme ce qu'on vous a appris, ou ce que vous devriez ressentir, vous êtes en liaison avec votre médecin au sol et vous pouvez vous exprimer sur ces sujets.
Mais l'essentiel de ces troubles potentiels, Claudie Aigneret, ce qui est très important de dire, c'est que l'essentiel d'entre eux sont réversibles.
Oui, c'est un super modèle pour les médecins et les chercheurs, parce qu'ils ont là un modèle de vieillissement réversible. Parce qu'effectivement, le vieillissement, ça s'accompagne de fragilité osseuse, de déminéralisation, de perte de trophicité musculaire. Donc ça, c'est des signes de vieillissement, mais on n'a pas trouvé encore la solution.
On pourrait dire, imaginons pour le grand public, de dire 3 mois dans l'espace, ça fait combien d'années imaginaires en plus, ou c'est quelque chose qui ne peut pas se calculer?
Non, parce qu'on n'est pas à des vitesses qui se rapprochent de la vitesse de la lumière, donc le paradoxe des jumeaux ou le vieillissement de ce type, c'est pas pour le type de mission qu'on a aujourd'hui. Par contre, effectivement, certains phénomènes de désadaptation de notre condition d'humain, en particulier musculaire et osseux, et potentiellement sur le système immunologique, la récupération va prendre, par exemple pour le système osseux, le même temps de récupération que le temps de séjour en microgravité. On dit souvent que 6 mois de séjour, il va falloir 6 mois pour avoir une récupération complète de tous les paramètres.
Est-ce que vous diriez qu'il y a certains troubles ou certains problèmes qui peuvent se révéler plus complexes à gérer que d'autres? Je pense bien sûr à l'exposition au rayonnement. Là, est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu à part?
C'est un petit peu à part par rapport à ce qu'on envisage aujourd'hui. La station spatiale internationale ou les stations qu'on a fréquentées auparavant, elles sont à 400 km en orbite basse autour de la Terre, donc encore protégées par le champ magnétique de la Terre qui protège donc de ces radiations. Dès qu'on envisage la Lune, et c'est pour très très bientôt, ou qu'on envisage Mars pour un petit peu plus tard, là, on va vraiment et effectivement être confronté à ces radiations, à la fois les radiations venant du Soleil et puis le fond de radiations cosmiques avec des énergies lourdes. Et donc, effectivement, l'impact sur la physiologie, tout autant que sur l'électronique d'ailleurs, mais sur la physiologie, ça nous concerne plus directement, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Il faudra savoir protéger les équipages pendant le voyage, quand le voyage va être de très longue durée, comme les missions martiennes, et puis pendant le séjour de longue durée sur la surface du corps céleste.
Ça veut dire que ça, c'est un chapitre sur lequel vous travaillez précisément dans l'élaboration de ce village lunaire de demain.
Alors, sur ces missions à venir de durée longue, le problème des radiations est un problème majeur. parce qu'on le maîtrise pas complètement et on sait pas complètement s'en protéger et qu'il y a pas vraiment de possibilité de s'en échapper. Il y a pas de retour en urgence quand on est parti sur une mission lunaire ou une mission martienne. Donc on envisage par exemple des habitats sous la surface du corps céleste pour pouvoir se protéger.
Ça tombe bien pour la Lune parce qu'il y a justement
des tubes lavaires qui ont été mis en évidence. Donc c'est un des scénarios de construction des infrastructures sous la surface. Si c'est sur la surface, de trouver la bonne façon de se protéger. C'est compliqué la radiation, parce que des radiations primaires heurtant une surface de protection se transforment en radiations secondaires dont on sait qu'elles sont aussi potentiellement dommageables pour l'organisme. Donc c'est un problème, c'est une préoccupation au-delà d'arriver à maintenir effectivement pendant des durées longues des astronautes en capacité de travailler.
On perçoit la complexité, il faut gérer tout, il faut gérer le plus simple aussi, le plus simple bien sûr, se nourrir. En termes d'alimentation, on a vu qu'il y avait des effets sur la santé. Alors, est-ce qu'on prévient certains de ces effets par des supplémentations, par une approche particulière de la nutrition ?
Oui, bien sûr, et des supplémentations, il y a un suivi très très important de ces sujets. Et d'ailleurs, nous allons avoir un astronaute européen, Luca Parmitano, qui va décoller le 20 juillet. Et Luca a une expérimentation qui est justement sur la balance énergétique avec un suivi très très précis, à la fois qualitatif et quantitatif de ces ingestions. Et c'est hyper important parce que à la fois il y a l'énergie nécessaire au travail normal et il y a les sorties extravéhiculaires potentiellement qui sont des éléments physiquement, physiologiquement très très lourds à porter. Et puis quand on pense mission lointaine, durable, il va falloir penser le support vie. Donc, quel type d'agriculture pour développer sur place
on pourra pas
les nutriments, parce qu'on va pas tout apporter depuis la Terre. Donc, ce sont des situations très différentes.
Ça ressemble à quoi, Claudie Aigneret, le plateau repas d'un astronaute? Un petit peu une ration militaire?
Moi, j'ai connu, disons, deux époques. Quand j'ai volé sur la station Mir, on était encore dans quelque chose qui pouvait ressembler un petit peu à un package militaire, même si d'ailleurs un lycée hôtelier de Souillac avait eu la gentillesse de me préparer quelques petits plats qui changeaient de l'ordinaire.
Le sud-ouest,
avec une équipe de jeunes étudiants hôteliers.
Je ne demanderais pas s'il n'y avait pas du canard.
Et aujourd'hui, sur la station spatiale internationale, il y a une variété beaucoup plus importante, soit du lyophilisé, soit de la conserve, mais avec voilà des qualités intéressantes sur le plan nutritionnel, bien suivies. Sur le plan gustatif, après, quand j'ai évoqué tout à l'heure cette redistribution des fluides vers le haut de la tête, on a probablement au niveau gustatif des modifications. Donc on a plutôt tendance à utiliser des épices, du sel, du poivre et des sauces pour redonner un petit peu de goût qu'on aurait perdu.
Alors, autre illustration d'un séjour prolongé dans l'espace sur le corps, on va revenir sur une expérience, celle du Canadien David Saint-Jacques. Il a touché Terre le 25 juin, après 6 mois passés à bord de la Station Spatiale Internationale. David Saint-Jacques, alors côté CV, côté curriculum vitae, il est ingénieur, il est astrophysicien, lui aussi est médecin. Il est resté donc 204 jours dans l'espace avant de regagner le sol du Kazakhstan à bord de Soyouz, à l'intérieur de laquelle il avait pris place avec 2 autres astronautes. Et c'est vous sur Terre qui l'avez suivi, docteur Rafiku Yumdjian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin à l'Agence spatiale canadienne, médecin de vol précisément. Nous avons enregistré cet entretien compte tenu du décalage horaire avec Longueuil, un siège de l'Agence spatiale canadienne. Longueuil, c'est juste à côté de Montréal, de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Alors avant d'entamer cet entretien avec vous, docteur, petit retour en arrière, le 25 juin, premières impressions de l'astronaute David Saint-Jacques. Il vient tout juste d'atterrir dans les plaines du Kazakhstan.
Là, ben, d'abord, je me sens chanceux d'être venu. Je me sens un peu nauséeux. Mais ce qui me surprend le plus, c'est l'odeur du foin ici. C'est super bon.
Impression au micro de Radio-Canada. Docteur Kouyumdjian, vous trouviez où précisément pour suivre ce retour sur Terre de David Saint-Jacques?
Eh bien, j'étais sur place avec les forces de recherche et sauvetage de l'équipe russe. Donc, on était au Kazakhstan, sur les steppes, juste à l'endroit où la capsule a atterri.
Pour commenter ce que vient de dire David Saint-Jacques, dans ce petit document d'archives, il parle de ses nausées à l'atterrissage et puis aussi de ses sens en éveil. Il évoque les parfums. Vous avez parlé tout de suite avec lui après cet atterrissage?
Oui, absolument. Donc j'étais tout de suite sur place. Je l'ai aidé à sortir de la capsule avec les techniciens. On a pris quelques moments pour se reposer. Donc, les Russes, typiquement, les installent sur des chaises longues, juste devant la capsule, pendant quelques minutes, le temps de prendre les premiers signes vitaux. Et ensuite, on les porte sur le terrain qui est un peu difficile, dans une tente médicale, où ils ont le temps de s'allonger un petit peu et d'enlever leur scaphandre, avant de reprendre l'hélicoptère vers l'aérodrome le plus proche. Et de là, on est parti jusqu'à Houston.
Alors, Station Spatiale Internationale, ça veut dire que l'examen médical après l'atterrissage, lui aussi, est international?
En fait, chaque agent spatial qui participe à la Station Spatiale Internationale est responsable de ses astronautes. Donc, comme Canadiens, nous sommes responsables des astronautes canadiens. Et puis, les médecins canadiens sont responsables de leurs astronautes avant leur mission, pendant leur mission et après leur mission, pour ce qui est du reconditionnement et de la réhabilitation à la gravité.
Ce retour, c'était donc il y a près d'un mois, Dr Rafi Kouyoumdjian. Alors aujourd'hui, comment David Saint-Jacques se porte-t-il?
Alors il va certainement beaucoup mieux déjà. Donc la phase aiguë d'un retour dure à peu près 3 semaines. Donc c'est un peu l'équivalent du temps que ça prend pour s'adapter à l'espace. Donc ça prend à peu près 2 à 3 semaines pour s'adapter à l'environnement de microgravité, donc avec des symptômes qui peuvent inclure de la nausée, des douleurs musculaires un peu partout, de la congestion, des maux de tête, etc. Donc ça, c'est une fois qu'on arrive à la station. Puis tous ces symptômes, ben, tranquillement, s'estompent et on s'adapte finalement, le corps humain s'adapte à la pesanteur. Et ensuite, au retour, c'est un peu l'équivalent, c'est un peu le mal de terre avec des nausées au retour, de la difficulté à se mobiliser, des pertes d'équilibre. Mais tous ces symptômes, en fait, s'estompent assez rapidement au fil des premières semaines après le retour.
Ça veut dire que David Saint-Jacques est resté quelques semaines sous votre observation ou il peut quand même rentrer chez lui et enfin retrouver sa famille?
Alors ce qui se passe, c'est que dès qu'on arrive à Houston, la première nuit est typiquement passée au centre de contrôle Johnson à la NASA. Donc sous surveillance médicale directe si on veut. Mais dès la deuxième nuit, il a pu aller chez lui, rejoindre les siens, donc il a pu coucher chez lui. Par contre, tous les jours, il avait des examens médicaux. Évidemment, il était un sujet pour plusieurs expériences scientifiques aussi. Et puis finalement, le troisième volet, c'était des debriefings, donc un résumé sur les différentes disciplines qui sont intéressées, à savoir comment ça s'est passé, son séjour dans l'espace.
Alors en termes de suivi justement, Dr Rafi Kouyoumdjian, quel est le calendrier pour un astronaute qui, comme David Saint-Jacques, a eu un séjour d'une durée assez longue dans l'espace, près de 200 jours?
Voilà, 204 jours. Alors quand les astronautes reviennent, donc la phase aiguë pour la réhabilitation dure à peu près 3 semaines. Donc on leur demande de ne pas conduire de véhicule automobile pendant au moins 2 semaines, justement pour permettre au sens de l'équilibre et à l'oreille interne de se réadapter à la gravité.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, Dr Rafi Kouyoumdjian, David Saint-Jacques est le même homme en termes physiques qu'avant son séjour dans l'espace?
Alors non, pas tout à fait. Donc lui-même, il sent qu'il n'est peut-être pas revenu à 100%. En général, on parle de un jour pour un jour dans l'espace. Donc pour qu'il se sente exactement comme il était avant de partir, je pense qu'il faudra attendre peut-être 4 à 6 mois encore. Par contre, pour quelqu'un qui ne saurait pas que David est allé dans l'espace, a priori, on ne le verrait pas.
Alors David Saint-Jacques en récupération, et un petit peu, il faut le dire aussi, en vous écoutant, on l'a compris, un petit peu cobaye, quand est-ce qu'il va recommencer à travailler, on va dire, pour les autres?
Alors, déjà, dans quelques semaines, il aura droit à des congés, bien sûr, donc pour se reposer, pour retrouver sa famille. Et puis, peu à peu, il va recommencer à rejoindre le corps des astronautes aux États-Unis, à la NASA. Et tranquillement, il va pouvoir reprendre son emploi au centre de contrôle à Johnson, tout en continuant, évidemment, le reconditionnement. Cette fois-ci, plus sous supervision directe. Il aura des protocoles d'exercice qui lui seront déjà conseillés par les experts et puis il va pouvoir continuer par lui-même, en fait, tout comme il faisait avant d'être assigné à la mission. Donc David était quelqu'un qui était déjà en très bonne forme physique avant d'être assigné à sa mission il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et donc il a maintenu sa forme avant le vol et certainement pendant le vol aussi. Il avait 2 heures d'exercice par jour, tous les jours pendant 6 mois.
Merci beaucoup, Dr Rafi Kouyoumdjian. On va vous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de cet entretien. Alors, séjour remis en condition une fois rentré. On a entendu ces symptômes typiques après le retour sur Terre, perte d'équilibre temporaire, Claudie Aigneret. Vous avez personnellement ressenti ça un petit peu, ce déséquilibre, la tête qui tourne? Même, on voit quand ils descendent des capsules Soyouz, les astronautes être immobilisés, ils sont un petit peu, on est là pour les aider, quoi.
Oui, alors le temps de récupération juste après cet atterrissage, il est plus rapide si c'est un vol de courte durée, et ça prend un petit peu plus de temps sur un vol de longue durée. On imagine tout à fait ces capteurs qui nous permettent, par la peau, ce qu'on appelle l'extéroception, sur la plante du pied, ils sont très modifiés. Pendant 6 mois, vous n'avez pas mis la plante du pied sur un support quelconque. Les capteurs qui sont dans les articulations, dans les tendons, la proprioception, avec des muscles de relâché et un squelette en état de relaxation complète, ils n'ont pas du tout le même type de fonctionnement. Votre appareil vestibulaire, lui aussi, n'est pas stimulé de la même façon. Donc il faut remettre tout ça en ordre au retour. Ça va aller assez vite. Et je dirais que pour ma part, avec des vols courts, en, disons, 5 minutes, j'avais envie de dire à ceux qui m'épaulaient pour marcher, allez-y, laissez-moi marcher.
Je vais y arriver toute seule. Et l'éveil des sens aussi, hein?
Oui, et par contre, sur les vols de longue durée, on transporte les astronautes dans des fauteuils, parce que là, il faut un petit peu plus de temps. En plus, souvent, il y a des chutes de tension. L'éveil des sens, c'était important. J'avais juste parlé auparavant du goût, mais il y a aussi l'odeur. Et je m'associe complètement à ce que David a dit. La première chose qui m'a sauté au nez quand on a ouvert l'écoutille, c'est cette odeur de la terre des steppes du Kazakhstan. Et on se rend compte de l'absence d'odeur dans la station quand on retrouve ces odeurs de terrien.
Ça donne tout son sens au terme retrouver, justement, atterrir, vous arrivez sur ce monde que vous connaissez, ça réactive toutes les sensations.
Oui, et une petite anecdote sur l'odorat aussi. Quand un équipage arrive vers la station spatiale, on arrive en général avec des fruits frais et même certains végétaux. Et la première chose que nos collègues qui sont dans la station depuis quelques mois font, c'est de porter à leur nez pour sentir ces odeurs de la terre.
Il faudrait y penser pour le village, hein, pour donner aussi des sensations aux personnes qui resteront sur une longue durée.
Oui, sans doute. L'agriculture, elle a son aspect nutritionnel et quantitatif. Elle a aussi son aspect qualitatif de la couleur, de ce qu'on peut en faire, des odeurs qui l'accompagnent.
Alors, autre aspect essentiel de cette utilité des vols spatiaux, s'ils étaient encore nécessaires de les démontrer, ce sont les possibilités immenses en termes de recherche, d'expérience dans un cadre hors norme, Claudie Aignan. Pour bien comprendre, petit voyage dans le temps, c'est toujours en votre compagnie. Octobre 2001, dernier préparatif avant que vous n'embarquiez pour la mission Andromède. Et on vous retrouve cette fois, astronaute expérimentatrice.
Pour la première fois, un petit aquarium va flotter dans l'espace.
On aura pour but pendant le vol de filmer essentiellement le comportement natatoire de ces animaux et le traitement essentiel, le cœur du travail scientifique sera fait au retour au sol avec l'étude du réflexe vestibulo-oculaire, comment justement au niveau de l'appareil vestibulaire se mettent en place tous les systèmes de perception.
Le tunnel. Attention, ce n'est pas un jeu. Cette expérience est destinée à mieux comprendre la vision dans l'espace. Il s'agit de retrouver sa route.
Il faut qu'on mémorise cette navigation dans le couloir et puis qu'on la restitue quand on en est sorti.
Exactement.
Bien sûr, une nouvelle fois, Claudie ne manquera pas de travail. Mais elle prendra aussi le temps de contempler la Terre, de ramener de splendides souvenirs, privilège des astronautes.
Priorité santé sur RFI.
Journal de 20h, deuxième chaîne de télé publique, 2001, octobre 2001, Claudie Aignoret. On imagine que tout est programmé, tout est millimétré dans ces expériences. Vous avez testé les choses avant d'embarquer? C'est toujours comme ça que ça se passe?
Oui, c'est important de le dire. On parle toujours de l'astronaute qui a la chance de vivre la mission. Mais ces missions sont préparées par des équipes au sol, des équipes de scientifiques, des équipes d'ingénieurs, les instructeurs qui vous font répéter, ceux qui écrivent les protocoles, qui les testent, les industriels, qui ont des trésors d'inventivité pour rendre possible une expérience dans une telle condition. Quand on parle d'aquarium ou des pleurodèles que j'ai fait, qui ont pondu en microgravité, où on a récupéré les œufs. Vous imaginez derrière aussi toute la technologie nécessaire. Et donc ça, c'est très très important. C'est préparé, minuté, on est entraîné, on a répété. Mais bien évidemment, il y a toujours des choses qui se passent pas comme ce qui
justement,
était prévu.
Est-ce qu'il y a de l'imprévu et comment ça peut tourner justement? Quelle surprise dans l'espace par rapport à ces expériences déjà? Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont complètement étonné? Vous n'aviez pas vu du tout comme ça les choses? C'était vraiment une découverte.
Alors oui, je peux citer quelque chose qui m'est arrivé personnellement, c'est une manip de physique des plasmas. On n'était plus dans la physiologie ou la biologie, mais voilà, des plasmas, comment ils allaient se comporter avec des variations de pression. Et on avait sur nos protocoles exactement ce qu'on devait voir sur le petit hublot de l'appareillage. Et en microgravité, c'était pas du tout ce qui était prévu pour moi. Et donc là, évidemment, l'astronaute se pose la question, j'ai pas fait le protocole exactement comme prévu, il s'est passé quelque chose, j'ai pas mis la bonne pression. Et puis, non, c'est simplement parce que le comportement de ce plasma n'était pas imaginable ou prévisible par les scientifiques. Et ça, c'est toute la beauté aussi de la découverte quand on est dans un environnement différent.
C'est ça, ça c'est un petit peu Pasteur qui découvre, ça se passe sous vos yeux.
Absolument.
Et comment justement, on rend compte de tout cela au retour? Comment est-ce qu'on travaille sur le terrain? Parce que vous découvrez ça, vous avez quoi à côté? Vous avez un ordinateur, vous notez tout ça, vous envoyez directement à la base, comment ça se passe?
On enregistre les données, on a l'ordinateur, et puis on a bien évidemment des communications régulières avec le sol, en particulier la station spatiale international aujourd'hui, c'est un laboratoire orbital, des laboratoires très très bien équipés, avec des communications en temps réel avec le sol. Ce qui sera différent pour les missions futures, où il y aura des délais de communication. Donc beaucoup plus d'autonomie de l'équipage pour les prises de décision. Mais là, effectivement, on est en interaction avec les scientifiques, et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les protocoles, puis les longues séances de débriefing au retour de la mission, et c'est là où David doit être en ce moment en train de débriefer les résultats de ses expériences.
Alors, plus près de nous, un autre laborantin des étoiles qui témoigne, Thomas Pesquet, lui aussi évoque ses expériences scientifiques menées en apesanteur quand la station spatiale devient laboratoire.
On sait que les virus deviennent un peu plus virulents dans l'environnement de la station spatiale, ce qui permet d'en étudier certaines souches et puis d'identifier des potentiels candidats pour des vaccins. Il y a des thématiques comme ça qui se font, recherche contre le cancer, immunologie, qui marchent très très fort en ce moment dans la station spatiale. Moi, j'avais pas de connaissances spécifiques en médecine ou des choses comme ça, mais ça fait partie de l'entraînement. On essaie de nous donner, on va dire, un petit vernis théorique histoire de comprendre ce qu'on fait, évidemment, mais sans rentrer dans des détails de niveau d'abstraction trop élevé. Ensuite, on fait ce qu'on appelle l'entraînement pour les missions. Donc on va rencontrer les chercheurs, ils vont nous expliquer, on va répéter les gestes, les procédures, et c'est là qu'ils vont nous apprendre comment faire. Nous, on fait plutôt les bras là-haut, et puis l'intelligence, elle se trouve toujours dans les laboratoires.
L'intelligence dans les laboratoires, l'astronaute Thomas Pesquet, c'était en juin 2015, document coproduit par l'INSERM et le Centre National d'Études Spatiales. Thomas Pesquet qui devrait donc séjourner à nouveau dans l'espace fin 2020. Alors on comprend à travers ces différentes archives que dans une certaine mesure, seulement bien sûr, mais quand même, la santé terrestre, elle peut aussi se jouer dans l'espace, à des milliers de mètres au-dessus de nos têtes. Claudie Aigneret, qu'est-ce que ça change des bouleversements de la gravité quand on expérimente? Qu'est-ce qu'on apprend de différent? C'est quoi? Ce sont des comportements différents au niveau cellulaire pour quelqu'un qui n'a pas forcément une formation scientifique. Quel est l'intérêt?
Les intérêts sont multiples. Déjà, l'intérêt de mieux connaître la connaissance, le savoir, toujours dépasser ce qu'on sait déjà comme acquis. Et bien évidemment, quand on est dans un environnement hostile, simulant, différent, on a plus de chances de penser différemment et trouver de nouvelles solutions. Donc ça, c'est sur la connaissance. Ensuite, l'application de ce qu'on va découvrir. On a parlé tout à l'heure de la fragilisation de l'os. C'est vrai qu'à l'époque des débuts de l'ostéoporose, on imaginait essentiellement des causes hormonales. On s'est très vite aperçu, avec la microgravité, que l'absence de stimulation mécanique transformait la façon dont on renouvelait cet os. Donc ça a été complètement validé. Et d'ailleurs, on a développé des traitements physiques de rééducation ou de types d'activités à faire à bord qui sont utilisés au sol aujourd'hui, que ce soit par des types de stimulation ou des types d'exercices.
Pour schématiser, avant, quand on avait un problème en ostéoporose, on allait en rhumato, on faisait une radio, on rentrait chez soi avec un traitement. Maintenant, on fait du vélo. On
va absolument.
Voilà, on se prend en charge.
Voilà, donc ça, ce sont des éléments qui ont été confortés par ce travail dans des situations particulières. Et puis, vous imaginez le suivi médical de l'astronaute à bord. Il faut avoir des appareillages qui sont miniaturisés. Vous n'allez pas partir avec un gros bloc d'échographie. Il faut avoir des appareillages qu'on puisse éventuellement téléopérer depuis le sol, parce que Thomas le disait tout à l'heure, il apprend à faire des manips, mais quand même l'intelligence et l'intelligence de la main de l'échographiste, par exemple, elle est souvent au sol plus qu'à bord. Donc, dès la téléopération, par exemple en échographie, une manip développée par le CNES. La fiabilité, il ne faut pas que ça tombe en panne, il faut que ça soit. Donc, tout ça, ce sont des éléments aussi technologiques. Que ce soit la télémédecine ou la miniaturisation, la portabilité des appareillages, la qualité des capteurs qu'on va utiliser, qui sont considérablement intéressants pour la médecine du sol.
Alors, on va parler dans un instant santé mentale. J'ai juste une petite question au médecin que vous avez été de formation et que vous êtes donc encore, puisqu'on le reste toute sa vie un petit peu quand même. Pourquoi les séjours dans l'espace ont un effet sur le système immunitaire? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'élaboration, penser à des vaccins. Qu'est-ce que ça change pour notre immunité, pour notre protection immunitaire?
Alors, il y a deux éléments qui peuvent intervenir. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais le fait effectivement que la virulence de certains bactéries ou virus soit transformée parce que on n'a pas le même métabolisme, même une petite structure vivante comme ça, quand elle est en microgravité par rapport à la gravité normale. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, vous êtes dans un environnement clos, confiné. Donc les stimulations de votre système immunitaire ne sont pas les mêmes que quand vous êtes dans une collectivité plus large ou dans un espace ouvert. Donc il y a à la fois la cause et la conséquence, je dirais.
Alors Claudie Aigneret, on va repartir pour le Québec pour aborder ces autres conséquences en termes de santé des séjours dans l'espace. Ce petit monde qui vit en cercle fermé, on retrouve au Québec, le docteur Kouyoum Jian, qui a été également, tout à l'heure on vient de l'entendre, il a été également médecin de vol adjoint de Thomas Pesquet. On retrouve toujours en ligne du Québec le docteur Rafi Kouyoum Jian pour la deuxième partie de cet entretien enregistré. Vous êtes médecin à l'Agence spatiale canadienne. On va aborder avec vous, si vous le voulez bien, les questions de santé mentale après le séjour de 204 jours dans l'espace de l'astronaute canadien David Saint-Jacques. Est-ce qu'il y a justement des entretiens, des consultations, docteur Kouyoum Jian, ou un suivi spécifique pour une prise en charge des effets sur le plan psychique et psychologique d'une expédition spatiale?
Alors tout à fait. Il y a un psychologue spécialisé qui suit les astronautes en général avant leur mission et qui prépare aussi leur famille, donc à quoi s'attendre pendant la mission. Et le psychologue continue ses discussions de façon bi-hebdomadaire, donc une fois par deux semaines. Il y a une vidéoconférence privée psychologique cette fois-ci durant toute la durée de la mission et le retour aussi pour leur donner des conseils, comment se réadapter à la vie sur Terre, si on veut, à la vie familiale, au retour au travail. Mais le soutien psychologique ne se limite pas juste à un soutien par un psychologue. En fait, il y a toute une infrastructure de soutien psychologique. Donc, entre autres, ils ont Internet, par exemple. Ils ont accès à un téléphone IP qu'ils peuvent utiliser à n'importe quel moment pour appeler leurs amis ou leur famille sur Terre.
Alors bien sûr, là on ne parle pas du cas de David Saint-Jacques qui est couvert par le secret médical, mais est-ce que les équipes en santé spatiale ont identifié des risques psychiques particuliers?
En fait, les risques psychiques sont surtout de nature à être désélectionnés lors d'une sélection d'astronautes. Donc il y a des critères pour désélectionner, si on veut, des candidats. Donc ce sont des candidats qui ont déjà, par exemple, eu des troubles psychologiques dans le passé. Il y a par contre aussi des critères pour sélectionner. Lors des campagnes de sélection, on cherche des gens qui, justement, sont capables de travailler en équipe, sont capables de s'adapter dans des environnements confinés, difficiles à vivre parfois. Et puis, évidemment, il y a tout ce suivi psychologique qui commence bien avant une mission. Donc, les astronautes ont des entraînements en petits groupes dans des endroits qui sont confinés, un peu comme des expériences dans des cavernes, des expéditions dans le nord, dans des régions nordiques très isolées où doivent passer plusieurs semaines en camping dans des conditions un peu plus difficiles. Et puis la NASA fait aussi des expéditions sous-marines au large de la Floride où ils peuvent simuler des missions spatiales avec un équipage de 6 membres pendant quelques semaines dans des conditions qui ne sont pas nécessairement très faciles. Donc tout ça pour les préparer à vivre ensemble, à vivre dans des conditions un peu difficiles et extrêmes parfois.
La solitude, la promiscuité et puis l'immense notoriété, cette aventure extraordinaire qui doit forcément avoir un impact en termes psychologiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte, justement, ce choc des contextes entre le confinement et le retour sur Terre, l'extrême médiatisation, l'extrême sollicitation?
Alors, les astronautes sont entourés par plusieurs pairs. Donc, ils ont souvent des conseils de leurs collègues qui ont déjà volé sur comment faire pour éviter des conflits, comment faire pour mieux s'adapter, quels sont les petits trucs à adapter pour mieux vivre dans l'espace, pour mieux dormir, pour pouvoir récupérer. Donc les fins de semaine, justement, les samedis et les dimanches, on permet aux astronautes de souffler un peu, d'avoir du temps pour parler avec leurs amis et leur famille. Donc tout ça, c'est préparé à l'avance. Ils savent très très bien dans quoi ils s'embarquent, parce qu'ils ont déjà plusieurs années d'entraînement avant de partir dans l'espace.
Et une dernière question, hein. Vous êtes médecin, docteur Kouyoumdjian. Est-ce que s'il souffrait d'éventuels problèmes de santé, David Saint-Jacques, d'éventuels problèmes associés à séjour spatial, serment d'Hippocrate oblige, est-ce que cela relève du secret médical ou est-ce que cela serait communiqué au grand public?
En général, s'il y a un problème médical qui n'a pas d'impact sur une mission, donc des problèmes médicaux que l'on peut régler avec l'infrastructure médicale qu'on a là sur la station, que ce soit les outils médicaux, l'échographie, les médicaments, etc. qu'on a sur la station, quand tout cela suffit pour régler le problème médical, en général, il n'y a personne qui ne le saura. S'il y a un problème médical suffisamment sévère pour considérer une évacuation, donc un retour sur Terre pour des soins plus spécialisés en milieu hospitalier, donc à ce moment-là, certainement, les contrôleurs de mission, les chefs de mission et au niveau de l'administration de la mission seront au courant d'un peu plus de détails médicaux que le public, certainement. Mais en général, le public ne saura pas la raison médicale précise qui aurait entraîné une évacuation d'origine médicale. Ça fait déjà 20 ans qu'on envoie des astronautes sur la station et je dois toucher du bois. Jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de chance.
Que ça continue comme ça. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Dr Rafi Kouyoumdjian. Je rappelle que vous êtes médecin à l'Agence spatiale canadienne. Impact psychique d'un tel séjour. On poursuit notre émission Priorité Santé consacrée à la santé spatiale. Toujours avec vous, Claudie Aigneret. On imagine les difficultés en termes de nuit, de rythme de soleil. Alors vous me corrigez si j'ai tort. Dans la Station Spatiale Internationale, on peut observer 16 couchers et levées de soleil par tranche de 24 heures. C'est vrai.
La vitesse de satellisation, c'est 28 000 km/h, ce qui veut dire qu'on fait une orbite autour de la Terre, parce qu'on est en orbite basse, en 90 minutes. Donc 45 minutes, si on regarde par le hublot, 45 minutes la Terre de nuit, 45 minutes la Terre de jour. Bien évidemment, c'est pas le rythme avec lequel on travaille dans la station. On est calé en lumière artificielle, bien évidemment, et on n'a pas toujours le nez au hublot, avec le rythme du centre opérationnel.
On peut dormir sans médicaments.
Des journées de 24 heures.
On peut dormir sans médicaments.
Bon, je pense que ça dépend des sujets. Certains astronautes vont vous dire qu'ils sont merveilleusement bien en flottaison libre dans leur sac de couchage. Et moi, par exemple, j'avais besoin d'avoir un contact de mon dos avec la matière du sac de couchage, donc je me mettais en position fœtale pour sentir vraiment ce qu'on a. Donc certains ont eu besoin de prendre des médicaments, d'autres pas. On a évoqué le mal de dos tout à l'heure, certains ont mal au dos, certains n'ont pas mal au dos, ça dépend un petit peu. Le sommeil, c'est important. On a tendance à vouloir profiter de tous les moments de ce qui se passe. Mmh. On a à la fois un programme expérimental chargé, communiquer avec la Terre, avec ses amis, regarder par le hublot, prendre des photos, il y a 1000 choses à faire.
Mais il faut quand même recharger les batteries quand même.
Mais il faut quand même recharger les batteries parce que c'est une activité très professionnelle où on doit maîtriser et être vigilant, toujours.
On a bien compris l'exigence. Alors, ce projet de village lunaire pour le compte de l'Agence spatiale européenne, on a compris toutes ces préparations, la complexité, les implications en termes de santé physique. Eh bien, ces risques particuliers ont permis de réaliser des avancées scientifiques pour répondre aux questions concrètes, comment soigner un astronaute à distance dès 1990 pour la première fois? L'Agence spatiale européenne expérimente la télémédecine. Explication du directeur d'alors de l'Institut européen de télémédecine à l'hôpital Purpan de Toulouse, Louis Larangue.
C'est la première fois que l'on peut à la fois concrétiser en un même lieu l'examen, les conclusions de cet examen, le conseil médical, à la fois par voie auditive et visuelle, de telle sorte qu'on a le maximum de conditions pour faire un diagnostic et ordonner un traitement efficace.
Archives de 1990, l'aventure spatiale, Claudie Aigneret, en lien direct avec la télémédecine, l'e-santé, comme on dit aujourd'hui, recours en pleine expansion, utilité éprouvée, notamment dans les déserts médicaux ou dans des régions en situation de pénurie de spécialités médicales comme en Afrique subsaharienne, donc application concrète de ce que l'on a appris, ce que l'on a appris dans les étoiles. Et en termes d'innovation, bien, la liste est très longue de tout ce qui a été d'abord expérimenté tout là-haut et utilisé ensuite dans les hôpitaux, dans les structures de santé, je pense en particulier, on va faire une petite liste, l'IRM, ça a commencé avec justement les missions Apollo. On le découvre en regardant des documentations. Ce traitement numérique des images, ça a d'abord commencé dans l'espace.
Oui, l'espace, en ce qui concerne le traitement de données multiples et complexes, c'est un très très bel exemple, effectivement, de la performance qu'il faut avoir. Et la télémédecine, ça s'est très vite montré indispensable. Donc on a évoqué fiabilité, miniaturisation, les envois de données en temps réel. Ce sont des éléments qui font avancer. Et même, il a été évoqué tout à l'heure, ces conditions particulières pour souder l'équipage dans des environnements extrêmes, des grottes, des cavernes, les fonds sous-marins. Tout ça, ça participe de ce que le spatial permet d'apporter comme innovation, transformation. Et la télémédecine et ces éléments-là sont effectivement majeurs pour nos populations sur Terre.
Et quand on prépare un village lunaire, dans ce village lunaire, il y a un centre de santé lunaire ? Claudie Aigneret ?
Ah ben, il faudra bien avoir quelque part effectivement un lieu. Il y a même des techniques qui sont mises au point aujourd'hui dans des conditions comme le vol parabolique, cet avion qui permet d'avoir 20 secondes de microgravité pour voir comment réaliser un massage cardiaque, si besoin, la mise en place d'une perfusion au-delà de la prise de sang qu'on sait réaliser. Donc effectivement, comment, soit en microgravité, soit en gravité réduite, ce qui sera le cas sur la surface lunaire, on va pouvoir assurer la santé, tant du corps que la santé mentale, parce que effectivement, vivre en équipage, dans des environnements si lointains, ben voilà, il y a des moments où tout ira bien, puis des moments où il faudra peut-être trouver des façons de s'épanouir, de se reposer, d'interagir différemment.
Envoyer un psy dans l'espace ?
En tout cas, on fait des expériences aujourd'hui dans des zones confinées pour des durées longues, hein, 500 jours en Russie, en Chine également, ou aux États-Unis. On sait une chose, on sait que l'organisation du temps de travail et de laisser des moments, voilà, plus de liberté sur l'emploi du temps, c'est important pour se remplir personnellement. C'est une chose importante que les équipages se connaissent bien, c'est important aussi. Et puis la diversité des équipages. Et vous entendez les centres de contrôle ou les médecins aujourd'hui qui vous disent pour les missions lunaires et les missions martiennes, l'équipage sera mixte et c'est d'une qualité plus facile à vivre pour tout le monde à bord et au sol quand l'équipage est mixte.
On parle de premier homme sur la Lune, ça veut dire qu'on attend quand même la première femme sur la Lune aussi à un moment donné, quoi.
Enfin,
c'est quand même une question qui est un petit peu basique, mais on l'attend aussi. Absolument. Vous étiez la première européenne dans l'espace, ça a été souligné. Là, le premier pas d'une femme sur la Lune, c'est aussi quelque chose qui est attendu 50 ans après cet événement international.
Absolument, c'est attendu et c'est normal et juste dans notre société du 21e siècle où les femmes ont montré qu'elles ont la capacité, bien évidemment, de participer à tout poste et à toute fonction dans cette aventure spatiale. Et donc, la prochaine fois qu'un être humain descend l'échelle à la surface de la Lune, ça sera une femme.
Merci beaucoup Claudie Aigneret, merci infiniment d'avoir été notre invitée. On a bien perçu la dimension humaine de cette aventure. Je rappelle que vous êtes astronaute conseillère auprès du directeur général de l'Agence spatiale européenne. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétou Samaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Demain, un reportage au Togo signé Raphaël Constant. Gros plan sur la dermatologie, des apports de la télédermatologie justement pour la prise en charge de la santé de la peau face aux pénuries de spécialistes. On se retrouvera à 9h10, temps universel.
Et Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.